to 12:30 p.m.
Good morning, everyone. If we could...
Bonjour à tous, dit la présidente. Merci. Je vous demande de prendre vos places. Le message pour les membres du GAC autour de la table, je vous demande de tenir compte que nous avons plusieurs invités, notamment des membres du conseil d'administration et de la GNSO. Je vous demande donc de donner la place à nos invités et autour de la table principale. Et cela... va signifier peut-être un représentant du GAC autour de la table principale. Je vous demande de laisser des places libres pour nos invités. Merci beaucoup.
So, good morning everyone and...
Bonjour à tous et bienvenue au groupe de BGRI. Qui est le groupe de travail qui travaille dans la mise en place des 6 recommandations de la TRT1. Il y a 2 thèmes principaux dans notre ordre du jour. Avant de passer au détail, je vais passer la parole à Bill Graham qui travaille avec moi. Merci. Bill Graham prend la parole. Merci, Malal. Il y a beaucoup d'intérêt dans la réunion d'aujourd'hui et des questions que l'on va débattre ici. Telles que Malal l'a mentionné, je ne veux pas prendre trop de temps. Il y a 2 questions principales à traiter. Premièrement, continuer le travail réalisé sur le travail du GAC dans le développement stratégique. Et ce matin, nous allons nous cibler justement dans le processus de développement de politique pour la GNSO, qui est central pour la fonction, pour le fonctionnement de l'ICANN. Il est donc très important de trouver des manières efficaces pour que le GAC et la GNSO puissent travailler de manière efficace ensemble avant d'atteindre le niveau officiel le plus élevé. Voilà donc pourquoi nous essayons de prendre les recommandations effectuées par la TRT numéro 1. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de membres du Conseil de la GNSO qui viennent ici pour cette session, ainsi que des membres du GAC et du conseil d'administration. J'espère donc que nous serons en mesure de mener un très bon débat. Manal prend la parole. Merci, Bill. Bien entendu, ce n'est pas nécessaire de dire que nous nous attendons à ce que nous allons tous gagner à partir de cette situation, le GAC, la GNSO et le conseil. Je vais maintenant passer la parole à Heather, présidente du GAC, pour qu'elle nous dise essentiellement quelles sont les méthodes de travail du GAC, comment le GAC aborde ces questions, et puis on va passer la parole à Jonathan de la GNSO pour qu'il nous explique leur travail. Heather, merci Manal. Je vais donner un panorama général très bref, très succinct. Et puis, nous allons continuer avec l'ordre du jour. Là, il faudra peut-être donner plus de détails sur certains aspects. Je vais commencer par vous dire quelles sont les méthodes de travail que nous utilisons. Je crois que vous savez tous que le GAC est l'un des comités consultatifs de l'ICANN et que nous sommes ciblés principalement sur les aspects concernant les politiques publiques. L'ordre de coordination, la fonction de coordination de l'ICANN pour les noms et les numéros d'Internet. Et nous avons des membres et des observateurs au sein du GAC. Il y a la participation des gouvernements ainsi que des organisations intergouvernementales qui participent et qui font le rapport au niveau régional ou bien suivant leur expertise spécifique. Le comité a de plus en plus de membres et cela a un impact sur nos méthodes de travail. Il faut que vous sachiez qu'il y a seulement 5 ans, pendant les dernières 5 ans, le GAC s'est beaucoup accru. Je crois que maintenant, on a à peu près 140 membres et 25 organisations intergouvernementales. Et compte tenu que nous sommes un comité qui travaille sur la base du consensus, on travaille beaucoup pour arriver à ce consensus. Ceci dit, nous faisons un grand travail avec une grande portée. Nous analysons les aspects liés au code de pays, aux questions générales et d'autres questions liées à l'ICANN et au travail effectué par l'ICANN. Nous avons un grand défi pour mener à bien notre travail sur la base du consensus et en même temps pouvoir être en ligne avec la substance du travail réalisé par l'ICANN. Je crois que je dois signaler que bien que nous ne soyons pas ceux qui favorisent le processus de développement de politique, nous participons de cela et il faut évaluer quel est l'impact sur la quantité de travail et comment faut-il participer activement et donner notre conseil, notamment dans les questions qui sont vraiment d'intérêt. Il faut arriver à un consensus dans toutes les questions traitées. Nous sentons beaucoup de pression parce que l'idée de l'ICANN, c'est d'être flexible, de donner des réponses, de pouvoir évaluer toutes les questions à un rythme approprié à la technologie d'Internet. Mais arrivé à ce point, je crois qu'il est intéressant de voir que dans les statuts, suivant les statuts, le GAC a la capacité de demander qu'une question ou un sujet ou un thème quelconque soit débattu dans un processus de développement de politique. C'est possible que l'on ne souhaite pas utiliser cette méthode, mais je veux signaler cela parce que la communauté doit tenir compte que cela existe, que c'est la manière dont nous voyons nos fonctions en ce qui a trait au développement de politique ou développement stratégique. Je voulais mentionner ce point-là et en termes de méthodologie. Il existe des processus nationaux, des processus préparatoires faits par les membres du GAC avant chaque réunion. Et nous donnons beaucoup de valeur à l'interaction en face à face parce que c'est très important d'avoir la représentation dont nous avons besoin. Nous avons besoin de faire des réunions intersessions. On le fait, on va continuer de le faire. Et pour pouvoir arriver à achever notre travail, il faut être en face à face. Voici donc une des questions qui représente un défi pour le GAC, pour que le GAC participe d'autres processus de développement de politique. Parce que nos méthodes de travail sont vraiment différentes. Les représentants des gouvernements ne font pas des échanges rapides. Il faut donc développer une idée, une position, et puis présenter la contribution à un moment donné. Nous savons que ceci n'est pas, ne garde pas d'uniformité avec les échanges d'idées d'autres secteurs de la communauté. Je crois que je vous ai donné un aperçu général du fonctionnement du GAC et bien entendu, si vous avez des doutes, vous pouvez faire des commentaires supplémentaires. Il y a aussi des membres du GAC avec beaucoup d'expérience ici dans la salle et ils peuvent certainement clarifier ou donner des précisions sur ce dont je vous ai parlé pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement du GAC. Manal, merci Heather. Je vais passer la parole à Jonathan pour qu'il nous donne aussi un aperçu des méthodes de travail de la GNSO. Jonathan prend la parole. Merci Manal, merci Heather. Je vais faire quelques commentaires avant de montrer des transparents préparés pour pouvoir vous les montrer. Et pour voir les données au personnel chargé des politiques de l'ICANN pour qu'ils comprennent notre fonctionnement. En tant que président du conseil de la GNSO, c'est la première réunion. C'est ma première réunion en tant que président après la réunion de Toronto où j'ai démarré mes fonctions. Et c'est la première réunion en face à face. Il y a donc eu un grand gap entre la réunion de Toronto et celle-ci. Je dois dire qu'il y a eu trois domaines clés sur lesquels il faudrait travailler pour améliorer notre position en tant que conseil. Ces trois questions sur lesquelles on a parlé avec le Conseil sont les suivantes. L'efficacité de nos méthodes de travail pour travailler ensemble, parce que ma vision personnelle, c'est que on ne peut travailler conjointement de manière efficace pour améliorer notre manière de travailler. En premier lieu, il faut nous concentrer sur la manière de travailler dans les processus et les mécanismes existants pour améliorer l'efficacité. Et pour cela, nous devons tous reconnaître, et j'ai prié au Conseil de reconnaître, qu'il doit y avoir des relations interpersonnelles efficaces au sein du Conseil. C'est plus facile de le dire que de le faire, hein? Et je suppose que au sein du GAC, vous avez des groupes différents de personnes, des groupes diversifiés, mais la GNSO et le conseil de la GNSO ont un microcosmos de diversité dans le modèle multipartite. Nous venons de positions très différentes parce que nous avons des activités commerciales, des activités non commerciales, toutes sortes d'activités. Et ça, je vais vous le montrer dans les transparences dans quelques minutes. Mais ceci dit, je crois que nous avons démontré que nous pouvons travailler de manière conjointe très efficacement parce que nous avons répondu très rapidement aux demandes du Conseil, peu importe si ces demandes avaient trait au Conseil en matière stratégique, que ces demandes signifient un défi pour notre manière de travailler. Et troisièmement, la troisième composante, c'est de travailler. Le deuxième, c'était travailler efficacement avec les processus existants. Le troisième point a trait à la diffusion externe, à respecter les attentes de certaines parties prenantes au sein de la communauté. Et je crois que le GAC représente clairement une des parties intéressées importantes au sein de la communauté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà donc pourquoi nous sommes ici avec l'esprit ouvert et nous souhaitons la bienvenue à cette approche parce que je crois que c'est l'occasion de rétablir les attentes et voir comment pouvons-nous participer potentiellement ensemble dans le processus de développement stratégique. Je veux dire aussi que peut-être nous partageons certains éléments clés avec le GAC. En dernière instance, nous voyons que notre responsabilité en tant que conseil ou comme GNSO, les enregistrants, c'est-à-dire les utilisateurs finaux des noms de domaine, et nous savons que les membres du GAC ont une responsabilité vis-à-vis des citoyens. Il y a une analogie vis-à-vis de cette responsabilité partagée par le GAC et la GNSO. Nous avons tous les deux une énorme diversité et cela nous enrichit et représente des défis en même temps. Et le plus important, peut-être, c'est que nous ne serions pas dans la même salle si nous ne partagions pas l'engagement envers les multiples parties prenantes. Ayant cela à l'esprit, je vais vous montrer certaines. Je vais vous montrer des transparents qui vous montrent le processus de développement de politique et pour pouvoir en parler et continuer avec ce débat. Il est important de reconnaître que le Conseil de la GNSO a un rapport spécifique avec la GNSO. Cela a trait à l'organe qui gère la politique au sein de la GNSO. Nous, en tant que Conseil, nous, on n'est pas un organisme législatif. L'objectif est donc d'assurer que la politique est gérée de la manière appropriée dans un processus ascendant au sein de la GNSO elle-même. Nous allons en parler plus tard, outre le processus de développement de politique et le projet pilote avec le BGRI. La GNSO a une responsabilité en matière de développement de politique ayant trait au développement des politiques pour les GTLD. Il y a des représentants de différents regroupements. La structure, c'est-à-dire il y a deux structures différentes. D'une part, les parties contractées, la Chambre des parties non contractées. Ces différents groupes qui apparaissent ici sur le transparent. Je sais que nous avons peu de temps. Je vais passer rapidement, donc, à la prochaine. Je ne sais pas si vous connaissez la formation de la GNSO, mais je peux en tout cas vous montrer ces transparents et où vous trouverez beaucoup plus de détails ainsi que dans notre site web. Si l'on analyse les différentes structures de la communauté qui font partie de la GNSO et qui font le rapport au Conseil, bien entendu, je dois vous dire que cette diversité constitue une richesse, mais également un défi. Je veux souligner cela parce qu'à partir de la perspective externe, il semblerait que l'on est fracturé ou que nos débats sont fracturés. Mais ce n'est pas vraiment comme ça si l'on regarde la diversité de la représentation. Je veux mettre l'accent sur la qualité de notre dialogue et de notre récente interaction pour pouvoir aborder certaines questions qui ont représenté des enjeux vraiment important, des questions sur lesquelles il est difficile de se mettre d'accord ou des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord directement, mais on a pu travailler de manière civilisée et efficace. Il y a certains enjeux, et surtout lorsque l'on parle de la GNSO et du Conseil de la GNSO, qui reconnaît cela dans son sein. Nous avons beaucoup travaillé dans les processus de PDP, et on travaille maintenant sur un PDP. Je vais vous montrer des transparents pour que vous voyez comment ce processus fonctionne. Je vais mettre en relief certains détails. Le PDP, le processus du PDP, comme beaucoup de processus de l'ICANN, fait l'objet d'une révision permanente et périodique. Il a été révisé comme dernière partie de la GNSO et a été adopté finalement par le Conseil en décembre. Et toutes ces règles ont été révisées. Et l'une des valeurs critiques de cela, c'est justement que les PDP sont au cœur de notre développement de politique. Et en dernière instance, ils créent une politique contraignante au niveau contractuel pour les TLD existants et pour les futurs TLD. L'applicabilité est donc très vaste, ce qui représente une composante essentielle pour que la communauté puisse influencer tout cela et créer des politiques contraignantes pour les services de nom de domaine. Je ne vais pas parler en détail de ce que vous voyez sur l'écran, mais ce qui est important à dire, c'est qu'il s'agit d'un processus de conséquences, de séquences, pardon. Alors, il y a différentes séquences. On crée un rapport sur une question quelconque. Là, vous avez différentes étapes et vous voyez des personnages situés dans des sites spécifiques parce que là, il y a la possibilité de faire des commentaires publics. Et les organisations de soutien, les comités consultatifs, comme Heather a dit au début, depuis le début du processus, eh bien, il y a plusieurs de ces points. Ces défis ont trait à la mécanique et à la manière dont cette mécanique travaille pour assurer la réalisation efficace du travail, parce que l'une des préoccupations universelles est liée à la vitesse du processus. Nous pensons qu'il faut arriver à un équilibre entre la vitesse de ce que l'on produit et entre l'efficacité du modèle multipartite et des apports des multiples parties prenantes. Tel que nous l'avons signalé au début et comme l'on a signalé, tout comité consultatif peut demander un rapport sur n'importe quel sujet. C'est un précurseur du processus de développement de politique, ce qui donne le démarrage de ce processus de développement stratégique. Il y a des opportunités pour faire des commentaires publics, pour faire des apports. Et en fait, on encourage les différentes expressions dès le début. Le Conseil, après avoir eu l'occasion de prendre ce rapport et de commencer un PDP ou de le refuser, il y a donc un processus qui est suivi. S'il y a eu un rejet, on va discuter les fondements avec la partie qui a présenté cela ou bien on passe à l'équipe de rédaction qui a initié la question. Il y a quelque chose d'important à souligner. Je vous le présente ici pour que ce soit clair. Quand un groupe de travail est constitué, eh bien, cela est ouvert à n'importe qui. La limitation est peut-être que le GAC peut rejoindre un groupe de travail. Et je crois que je l'ai déjà dit et je crois que Heather a aussi signalé cela dans ses commentaires du début de la réunion. Ce n'est pas la manière dont travaillent les représentants du GAC. Alors, nous avons l'esprit plus ouvert et on reconnaît qu'il y a peut-être d'autres alternatives, d'autres manières de participer des groupes de travail qui ne sont pas peut-être pratiques pour le GAC ou pour les membres du GAC. Je vais revenir sur cette question.
Il y a quelque chose que je dois souligner. Il y a une condition pour le processus de PDP depuis une étape très précoce. Il faut chercher les contributions des organisations de soutien et des comités consultatifs dans la communauté pendant le processus PDP. Ce n'est pas seulement l'occasion de les faire participer au groupe de travail, mais c'est une condition de notre processus que nous fassions cette diffusion extérieure, que nous prenions ces contributions et que nous synthétisions tout autre apport ou toute autre contribution en la reconnaissant et en tenant compte. Et en en tenant compte, lorsque ceci aura pu être, produit au sein du GAC. En dernier ressort, le résultat du processus exhaustif, c'est le modèle du PDP, le résultat de ce processus aussi exhaustif au de plusieurs facettes que nous appelons le modèle de PDP. C'est la recommandation qui est transmise au conseil d'administration et qui comprend un résumé de toutes les consultations et de toutes les contributions reçues. Vous pouvez voir comment ces contributions sont prises en compte et sont reconnues. Lorsque cela est transmis au conseil d'administration, il faut reconnaître toutes ces contributions. Il est clair qu'il y a une information d'informer le GAC au cas où les recommandations liées à la politique pourraient porter atteinte à la politique publique et les questions y afférentes. En dernier ressort, en développant la politique, le Conseil a la possibilité de mettre en œuvre un conseil de mise en œuvre pour que les plans de mise en œuvre puissent être publiés pour des commentaires et des consultations publiques. Je suppose donc que le message que vous devez retenir de cette présentation, c'est qu'il y a de très nombreuses opportunités, occasions, et même les responsabilités qui sont établies de façon obligatoire pour que l'on puisse faire des contributions tout au long du processus. Nous, au sein du GAC, nous devons chercher la manière de nous assurer que rien de tout cela ne pourra interrompre ou apporter une distorsion à un processus que nous estimons exhaustif et efficace, qui doit tenir compte de toutes les contributions, mais qui reconnaît en même temps la façon de travailler du GAC et tient compte des contributions et comprend le mécanisme de travail que le GAC a. Nous reconnaissons que c'est différent avec vous. Je vous remercie. Je sais que cela a été très bref. J'ai fait très attention au temps qui m'était imparti. Je ne voulais pas rentrer dans le détail de chacune des étapes du processus, mais j'espère vous avoir transmis les points principaux pour que vous puissiez comprendre que nous sommes vraiment disposés à travailler avec vous. Et si les choses n'ont pas été satisfaisantes par le passé, nous en sommes conscients. Et l'équipe d'ATRT a la condition de développer une modalité de participation plus précoce du GAC au développement des politiques. C'est David qui va prendre la parole, me semble-t-il. Merci beaucoup. C'est Manal qui prend la parole. Merci, Jonathan. Comme tu l'as dit, cela nous amène à voir les diapos préparés par David. Je veux mettre en l'accent très rapidement sur le fait qu'un essai a été fait à Toronto sur la circulaire mensuelle des politiques publiques qui a été résumée et traduite et qui a été diffusée aux membres du GAC pour qu'ils puissent enfin faire leur contribution. Je cède la parole à David. C'est David qui prend la parole. Merci beaucoup, Manal. À toi et à tous les membres de la communauté du GAC et des CAN. Je dois dire que depuis notre dernière réunion à Toronto, nous avons présenté le projet pilote sur l'information de précoce de politique pour que vous puissiez faire des commentaires dans le processus de PDT, aussi bien à la GNSO qu'à la CCNSO. Nous avons ces circulaires mensuels que nous vous fournissons sur toute la liste des directions électroniques et sur le site public du GAC. Il y a une page d'information qui vient des sites web et qui a un format plus condensé pour que vous puissiez la réviser. Je veux vous présenter le directeur de politique, Brian Peck, du personnel de la politique de l'ICANN, qui est le responsable de cette circulaire. Brian, c'est Brian qui prend la parole. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aux membres du GAC de nous avoir rejoints ce matin. Je voudrais consacrer quelques minutes pour voir ces rapports d'une seule page que nous publions depuis la réunion de Toronto. Je sais que nous disposons de peu de temps. Mais je voudrais savoir ensuite s'il y a d'autres commentaires ou une rétroalimentation au point de vue des suggestions, comment nous pouvons être plus efficaces, etc. Voilà. Ceci a été fait surtout pour mettre en œuvre la recommandation 12 d'ATRT qui offre des occasions aux GAC de participer de façon plus précoce au processus de développement des politiques. Les objectifs de ces rapports d'une page consistent à informer les membres du GAC des occasions qu'ils peuvent identifier pour participer précocement au processus de développement des politiques. Pour toute question de politique qui pourrait leur sembler intéressante pour vous en particulier ou pour le GAC dans son ensemble et que vous puissiez en informer le conseil de la GNSO. Je crois qu'il y a eu des copies distribuées de ces rapports d'une seule page. Il y en a un pour la GNSO, il y a un autre pour l'édition de la CNSO. Et nous avons essayé d'être aussi bref que possible pour vous donner un résumé et pour vous donner l'information sous un aspect graphique pour que vous puissiez voir dans quelle étape se trouve le processus de développement des politiques. Vous pouvez voir les tableaux correspondants à la CCNSO et à la GNSO pour que les membres du GAC puissent identifier une question d'intérêt public et qu'ils puissent savoir à quel moment du processus ils peuvent participer et à quel moment ils peuvent offrir des commentaires ou offrir leur avis au groupe de travail ou dans les délibérations finales. Comme nous l'avons dit, nous voudrions profiter du temps qui nous est imparti pour vous demander des commentaires ou pour vous demander des suggestions que vous pourriez avoir pour améliorer ce projet. Si vous estimez que nous pouvons continuer sur des bases mensuelles sur ce type de travail, vous avez peut-être des suggestions qui nous permettraient d'améliorer cet outil. Si, sommaire, il se peut que les groupes de travail puissent réviser ces rapports et de nous dire quels sont les domaines dans lesquels on peut apporter des améliorations. Le département de la politique est disposé à fournir un webinaire spécialisé avant, un séminaire web avant la réunion de travail public pour que nous puissions aborder certains thèmes qui auraient besoin d'un travail approfondi pendant ces réunions publiques. Nous voulons aussi nous servir de ces mises à jour mensuelles pour participer et pour demander votre avis pour les groupes de travail en particulier qui agissent avec la GNSO. Voilà donc en principe la manière dont l'outil est conçu. Nous vous demandons des commentaires, des suggestions ou enfin toute autre question que vous voudriez poser. C'est Bill Graham qui prend la parole. Merci David et Brian. Pour que cette réunion s'écoule rapidement, de manière fluide, je ne veux pas trop prendre de temps, mais je veux donner l'occasion à certains d'entre vous d'intervenir au cas où vous auriez des commentaires sur l'utilité de ces rapports et pour savoir si ces rapports ont été utilisés avant de commencer à parler des mécanismes qui pourraient être utilisés de façon supplémentaire pour nous assurer d'avoir une participation précoce du GAC. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur ces publications des mises à jour de politique mensuelles. C'est le Royaume-Uni qui prend la parole. Merci beaucoup, Bill. Merci à tous ceux qui ont fait leur présentation ce matin sur la participation précoce du GAC à ce processus. Par rapport à ces rapports mis à jour, je crois qu'il s'agit d'un outil très utile, très facile à lire, où l'on identifie très facilement les sujets clés. Donc, je pense que c'est un bon point de départ. Ma suggestion est la suivante. Nous voulons avoir toujours un regard vers l'avenir, disons plus proactif. S'il y a une occasion pour ce bulletin de dire « Bon, dans l'avenir, nous allons aborder ce thème », cela pourrait peut-être nous aider beaucoup. C'est peut-être quelque chose que nous voudrions, sur quoi nous voudrions avoir un suivi, mais ce n'est qu'une suggestion. D'une façon générale, je pense qu'il s'agit d'un outil vraiment précieux. C'est Bill qui prend la parole maintenant. Merci, c'est une suggestion très utile. C'est Manel qui prend la parole maintenant. Je me souviens aussi qu'il y a eu un autre commentaire que l'on a fait circuler dans la liste de distribution électronique qui demandait un autre calendrier de la question qui circulait sous forme d'annexe ou de couverture, quelque chose qui montre les dates. Merci Manal. C'est la Commission européenne. Merci, Monsieur le Président. La Commission européenne prend la parole. J'ai quelques commentaires généraux. Je ne suis pas tout à fait sûre que vous vouliez les entendre maintenant ou plus tard. C'est vous qui allez me le dire. C'est Bill qui prend la parole. S'ils sont spécifiques par rapport à ces rapports mis à jour, d'accord, c'est pour maintenant. Commission européenne, je vais faire le plus grand effort. Si vous croyez que je me détourne de la question, je vous demande de m'interrompre. Premièrement, je voudrais remercier l'ICANN au nom de la Commission européenne pour le travail qui a été fait jusqu'ici. Je crois que l'on a pris la bonne voie. Je voudrais dire que, tel qu'un collègue l'a dit tout à l'heure, il y a des différences entre la manière où le GAC et la GNSO et les regroupements de l'ICANN travaillent. Et je ne sais pas si il y a des questions qui... Je ne sais pas s'il y a des questions qui pourraient être traitées du fait de ces différences de fonctionnement. Je parle de la participation du GAC. Notre expérience nous montre que c'est assez difficile. C'est une façon très diplomatique de dire impossible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Par exemple, si je participe à un groupe de travail, même si je mets toujours l'accent sur le fait que ma position, là, n'est pas la position officielle de la Commission européenne, parce que la manière de fonctionner de l'administration publique ne permet pas d'avoir une telle vitesse dans un groupe de travail et pour toujours pouvoir donner la position officielle. Même si je le répète maintes fois, il y a la possibilité ou le risque que nous, comme nous les gouvernements, que nos commentaires soient pris comme des positions officielles de nos gouvernements. Et cela nous met dans une situation vraiment délicate parce que, par définition, nous essayons d'éviter les risques autant que possible. Nous avons une horreur des risques. Donc c'est un problème dont je voudrais savoir s'il peut être évité. Je veux donc mettre l'accent sur cela et de vous dire que c'est quelque chose qu'il faut considérer et analyser. Je ne suis pas sûre que l'on ait tenu compte de cela. Une autre question, lorsqu'on a d'autres mises à jour politiques au sein du GAC et dans le groupe de travail du conseil d'administration, je crois que les politiques sont excellentes, mais nous devons faire attention lorsque nous sélectionnons des thèmes que l'ICANN en elle-même considère avoir une importance politique parce qu'il se peut que nous n'ayons pas de responsabilité en ce sens-là. Donc, il faut que nous soyons très clairs pour éviter des malentendus. Et enfin, mais ce n'est pas la moindre des choses, et sans donner de nom, parce que ce serait inapproprié, bon nombre d'entre nous avons eu des entretiens sur des candidatures sur les nouveaux GT, les qui auraient pu avoir une implication publique dans la politique publique. Lorsque j'ai présenté un candidat un problème en particulier, un inconvénient, en lui disant que peut-être cette candidature pouvait avoir une implication ou une conséquence pour la Commission européenne, pour l'Union européenne, et le candidat nous a dit « Oui, nous le savons, mais excusez-moi de vous dire cela de cette manière, mais à quoi bon, mon Dieu, faisons-nous tout ça ?» Disons, la question de la politique, c'est que l'information doit arriver à l'avance. Comme le Royaume-Uni l'a dit, n'attendons pas la dernière minute jusqu'au moment où un membre du GAC aura dit « Ah, peut-être ça doit être problématique ». Si vous savez qu'il y a un problème, qu'un problème peut se produire, dites-le à l'avance. Parlons-en. Nous avons des moyens de le faire de façon informelle pour voir quelles sont les positions prises pour qu'il n'y ait pas de préjugés. Nous sommes des bureaucrates, nous sommes très habitués à ce type de pourparlers et de négociations. Voilà les trois commentaires que je voulais faire. Voilà. Ah. J'espère qu'ils n'ont pas été trop généreux. C'est Bill qui prend la parole. Merci, la Commission européenne. Il me semble que c'est des commentaires très utiles qui vont faire partie de la prochaine étape du débat pour savoir quels sont les mécanismes que nous pouvons utiliser ainsi que les délais dont nous pouvons nous servir pour que les GAC reçoivent l'information et qu'ils nous donnent des apports. Je sais que Jonathan, dans la PDP de la GNSO, je sais que Jonathan aura des commentaires. Je lui avais accordé de faire ses commentaires après les États-Unis. Merci, c'est Suzanne Radel qui parle. Merci, Monsieur le Président, et à tous ceux qui sont ici présents. Nous vous remercions d'être ici. C'est très utile pour nous que le board et le GAC puissent interagir. Et c'est très important pour nous aussi d'avoir le conseil de la GNSO. Et il y a tellement de membres de la GNSO et du reste de la communauté. Lorsque nous parlons de l'intégration du GAC, une étape plus précoce ou pour faciliter l'intervention plus précoce du GAC dans le développement des politiques publiques de l'ICA. Nous voulons que cela soit un objectif et une activité partagée, une approche de partenariat. Donc nous sommes vraiment très reconnaissants de votre intérêt et du niveau de participation dans la salle. Après ces transparences qui sont difficiles à voir, après la réunion de Toronto, la recommandation du groupe de travail du GAC et du conseil d'administration dit que ceci en était à une étape vraiment préliminaire. Il faut que nous voyions des idées, des options, des mécanismes que nous pourrions vous donner pour mener à bien ce travail. Comment pouvez-vous concevoir la mise en œuvre de ceci? Comme Jonathan l'a décrit si précisément, dans le processus, il y a des lignes en pointillé pour le groupe de travail à gauche qui disent rechercher l'opinion d'autres comités consultatifs et d'autres organisations de soutien de l'ICA. Nous ne savons pas comment cela fonctionne à l'heure actuelle et il se peut que nous ne fassions pas suffisamment attention aux signaux qui sont émis. Mais je ne crois pas, et je crois qu'il faudrait le dire, que nous ne savons pas exactement entièrement comment ça fonctionne. Nous le considérons, nous le regardons, et nous demandons comment cela marche, comment on peut insérer l'idée de ce qu'il y ait des échanges un peu plus formels pour qu'on nous dise, bon, voilà, nous sommes ici, nous avons décidé de créer ce groupe de travail et nous voulons que vous présentiez vos contributions maintenant. Et alors, avant que le groupe commence à travailler, je crois que nous devons établir un acte constitutif, établir des paramètres ou des critères, ou bien que vous vous adressiez à nous pour que nous puissions identifier quels sont les problèmes de politique par rapport aux politiques que vous mettez en œuvre, pour lesquelles nous pourrions avoir des objections d'ordre public. Nous pouvons donc parler d'un moment majuscule de politique publique. Nous pouvons parler d'un P minuscule lorsque nous parlons des politiques ou de développement des politiques que fait la GNSO. Alors, quel peut être le moment approprié pour partager cet acte constitutif ou la manière dont nous allons décider de structurer le travail et le partager avec le GAC pour que nous puissions faire nos contributions pour pouvoir identifier à une étape précoce quand nous voyons qu'il y a un composant de politique publique ou un élément que vous devriez considérer de façon plus détaillée, plus précise. Je crois aussi qu'il y a quelques lignes en pointillé que moi-même je ne comprends pas, excusez-moi. Mais sur la base de ce que nous avons identifié, nous pouvons donc établir une consultation. Nous allons peut-être avoir à le faire en ligne et dans le travail entre les sessions. Alors, nous allons commencer dans le GAC. Nous pourrions avoir quelques commentaires préliminaires ou points de vue. Nous espérons bien pouvoir parvenir à un consensus dans les réunions physiques face à face. Mais parfois, lorsque nous travaillons entre ces réunions, nous pourrions chercher une manière d'expérimenter ou d'intégrer l'ouverture de la GNSO. Et il est évident que nous allons pouvoir faire les meilleurs efforts pour voir quel est l'élément de politique publique qui est inclus dans cette politique et aller de l'avant. C'est une idée. C'est une idée nouvelle. Jonathan, j'ai été étonné un tout petit peu de cette question, de ce thème dont tu as parlé. Il y avait une référence, je crois, qui ne se trouve pas dans cette diapo. Je crois qu'il y avait une condition, une obligation d'informer le GAC ou quelque chose dans le genre. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que je pense que nous n'avons jamais eu cette obligation formellement, hein, que nous n'avons pas eu je ne demande pas un niveau de formalité très grand en ce moment, mais ce que je veux, c'est en tout cas que nous définissions des étapes qui nous permettent d'avoir un échange précoce, une étape précoce. Nos doutes, comme vous le savez, c'est que nous ne participons pas individuellement ni de notre point de vue individuel, qui peut être une position formelle, officielle ou pas, mais c'est au moins une perspective individuelle. Donc je pense qu'il y a eu quelques difficultés ou quelques malentendus par le passé, parce que comme nous avions agi en tant que liaison avec la GNSO par le passé, est l'une des raisons pour lesquelles dans le GAG nous avions décidé de finir avec ces liaisons, c'est parce qu'il y a eu des malentendus que ces liaisons du GAG parlaient au nom du GAG, et ce n'était pas le cas. La liaison du GAG qui parle au nom du GAG, ce n'est que notre présidente, parce que c'est elle qui envoie le message sur le consensus auquel est arrivé le GAG. Et cela, c'est pour que nous voyons plus clairement dès le début quel est l'objectif des commentaires que vous recevez, quelle est la structure de ceci et la manière dont vous allez vous en servir. Nous sommes ouverts, bien sûr, à l'expérimentation avec des choses différentes, nouvelles, qui, si elles ne marchent pas, seront laissées de côté et commencer avec autre chose, un plan B. Un autre point, je ne sais pas jusqu'à quel point cela a été formé jusqu'ici, mais cela se rapporte au niveau de formalité d'une communication d'une version préliminaire du GAC, version préliminaire pour le GAC, pour recevoir nos commentaires. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est quelque chose que nous considérions pour le présenter comme une option devant vous, pour que vous l'examiniez un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Je vais m'arrêter ici au cas où il y aurait des questions. J'ai encore quelques autres points sur la prochaine diapo, mais je vais m'arrêter ici pour voir si vous avez des réponses par rapport à celle-ci. Avant de céder la parole à d'autres intervenants, je voudrais dire que avant le BGRI, nous avions un autre sigle qui était celui du groupe de travail conjoint GWG par le sigle en anglais, c'était l'incarnation préalable de ce travail. Et à partir de juin 2011, on en est venu à ce groupe différent et on a changé notre perspective dans notre fonction de liaison. À cette époque-là, nous avions fait quelques propositions qu'il serait important de revoir et de faire circuler. On pourrait considérer des liaisons inverses dans le travail avec d'autres organisations de soutien et comités consultatifs, parce que nous avons expérimenté avec quelques-uns des organisations de soutien des comités consultatifs. Je pense que nous pouvons reprendre cette idée pour faire ressurgir cette notion des liaisons inverses. Je ne sais pas si ça peut fonctionner, c'est une idée d'un mécanisme. Je voudrais savoir quelles sont les réactions par rapport à ceci de la GNSO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les États-Unis, c'est Manal qui prend la parole. Pour récapituler un tout petit peu à partir de ce que la Commission européenne a dit, les États-Unis ainsi que la présidence, il y a un défi à relever pour une interaction en temps réel avec la GNSO. Le GAC a besoin de parler de ceci en dehors de la réunion et pouvoir ensuite faire des contributions en tant que GAC sur ces thèmes. Nous devons être avertis de ceci de façon précoce pour ne pas retarder le processus de la GNSO et pouvoir donner notre contribution en temps voulu. Nous aurions besoin de savoir comment ça fonctionnerait au sein du processus. Comme Susan l'a dit, comment ferait-on pour mettre l'accent, je veux dire, comment est-ce qu'on notifierait ces thèmes, parce qu'on avait mentionné une contribution des organisations de soutien, des comités consultatifs, et je ne suis pas très sûre de la manière dont cela fonctionne. Et ensuite, cette notion de la liaison inverse. C'est Jonathan qui parle. Je ne sais pas si nous allons pouvoir en parler en détail, mais nous pourrions en mentionner quelques-uns. Il y a deux ou trois choses, si je reviens sur ce que l'Europe a signalé tout à l'heure. Je crois que l'objectif de notre présence ici est de reconnaître qu'il y a un défi à relever que nous parlons constamment du fait que nous voulons que le gars rejoigne le club, qu'il puisse travailler dans les groupes de travail, je suis d'accord, et qu'il travaille avec des manières ou des modalités innovantes. Je suis d'accord avec Suzanne que, comme vous le savez, il y a très peu, on a mis en version en circulation et la réaction initiale a été positive. Cela ne semble pas ne pas tenir compte des processus existants, mais il semble bien que l'on cherche à interagir avec ces processus. Je comprends ce qui se passe avec le temps, avec d'autres conseillers de la GNSE qui sont ici présents, et je ne veux pas en faire un usage exclusif de la parole, mais je crois que nous allons avoir une réunion après pour poursuivre le traitement de ces points. Il faut comprendre ce que signifie la notification formelle, parce que nous leur présentons beaucoup de notifications, mais on ne le fait d'une façon qui soit vraiment utile pour vous, peut-être. Nous allons peut-être vous donner cela dans un email ou sur le papier et vous dire, OK, nous vous avons déjà communiqué, mais il faut que nous trouvions une autre manière de faire fonctionner les choses. Voilà donc un des points pour pouvoir comprendre que nous avons une obligation formelle de vous informer et que cela se trouve dans l'une des dernières transparences. C'était l'une des conditions et des obligations du conseil d'administration. Mais nous pouvons parler de ceci de façon plus détaillée. Je vais m'arrêter ici parce que je sais que nous avons très peu de temps. Et je ne sais pas s'il y a une autre question ou une autre contribution. Nous pouvons donc céder la parole aux personnes qui voudraient faire ces contributions.
Thank you, Jonathan. As you've noted, we're running short on time. Let me suggest.
C'est Bill qui parle. Merci, Jonathan. Nous avons peu de temps. Je vais prendre un commentaire de l'un de nos conseillers. Je vois le Royaume-Uni qui lève la main. Je veux voir un tout petit peu comment vont les choses pour pouvoir céder la parole à tout le monde. Donc, Wolfgang, s'il vous plaît. Je m'appelle Wolfgang Kleinwachter. Je suis membre du conseil de la GNSO et je représente le groupe de travail des parties prenantes au nord commercial. Nous avons entendu le terme partage des engagements, des responsabilités. C'est l'esprit dans lequel nous voulons travailler dans un processus de développement des politiques qui soit ascendant. De la même manière, nous pouvons dire que dans ce modèle de multiples parties prenantes, nous estimons qu'il y a différentes fonctions ou rôles à jouer, que chacun a son rôle à jouer et sa fonction, et que nous faisons partie aussi de la société de l'information d'Internet, mais nous savons que nous devons remplir notre fonction de la manière la plus efficace possible. Que les gouvernements participent à une étape précoce est très important parce que dès que l'on commence avec un processus de développement politique, de la même manière que l'on tient compte des paroles des différents regroupements, et Jonathan a dit quelle était la composition très diversifiée de la GNSO, nous croyons que il doit y avoir autre participation. À mon avis, et c'est un avis absolument pratique, il faut établir une différence entre une déclaration faite de façon individuelle d'un membre du GAC ou qui soit d'un gouvernement ou qui soit une position de tout le GAC dans son ensemble. Je crois que c'est vrai que nous pouvons dire cela suscite des problèmes au gouvernement. Mais si nous le voyons de l'autre côté, nous pouvons faire la différence. Cela peut être très clair. En disant, il ne s'agit que d'une déclaration individuelle. Je ne parle pas au nom de mon gouvernement. C'est très utile à un moment, à une étape précoce du développement des politiques. Cela ne signifie pas que ce sera la dernière position. Ce n'est qu'une indication. Et cela a été très utile que l'OMPI et l'OCDE aient participé par des emails avec des groupes de travail qui travaillaient des NGO, des organisations non gouvernementales et l'OCDE. Que pense l'OMPI à propos de certains problèmes sur la protection des normes des organisations intergouvernementales? Je sais que cela prend du temps. de faire et de présenter toute une position du GAC. Mais à une étape précoce, vous n'êtes pas obligé de présenter une position du GAC. Vous pouvez présenter des apports, des contributions pour voir comment nous pouvons avancer petit à petit et bien sûr arriver à la fin de cela, une fois que l'avis du GAC aura été formulé par consensus et que l'on puisse donner l'avis ou l'opinion au conseil de la GNSA. En définitive, c'est le conseil d'administration qui a le dernier mot à dire. C'est Bill qui prend la parole. Merci, Wolfgang. Comme nous avons très peu de temps, je vais demander au Royaume-Uni. À Saïd et au Liban. Et puis, nous allons faire quelques remarques finales pour pouvoir clore la réunion. Le Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni qui parle. J'essaierai d'être bref et je suivrai ce que vient de dire M. Kleinwarters. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il faut faire une contribution de qualité. C'est ce qui exige un certain temps pour pouvoir être fait de la manière appropriée. On avait parlé du fait que nous devions parler au sein de nos gouvernements hein, avec ceux qui établissent les réglementations et nous avons besoin de temps pour faire une contribution de qualité. Il ne faut pas nécessairement que ce soit par consensus, mais cela se rapporte au cadre d'un thème déterminé, qu'il s'agisse de politique publique ou pas. Cela nécessite de temps, parce qu'autrement nous n'avons pas l'occasion critique pour faire la contribution. Ma question est posée sur un autre aspect qui a un impact sur les ressources. Quelle est l'échelle de travail dont nous parlons? Combien de rapports sur certaines questions en particulier se font par an pour savoir combien de consultations on aura par an avec le GAC? Une autre manière de le dire, le calendrier des consultations doit tenir compte du temps dont nous avons besoin pour consulter la question avec nos gouvernements. Et il faut ensuite qu'il y ait un calendrier qui n'empêche pas d'autres réunions, d'autres conférences, etc. Il faut donc qu'il y ait une programmation soignée, précise des consultations. Je ne sais pas de quelle échelle de travail nous parlons, de quelle dimension. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont nous travaillons dans les gouvernements centraux nous oblige à avoir un espace de travail suffisant pour pouvoir recueillir toutes les contributions et puis faire, nous, de notre part, une contribution complète et de qualité. Merci beaucoup. C'est Bill qui prend la parole. Merci, Saïd. C'est Saïd qui prend la parole. Nous avons eu l'occasion, lorsque l'acte constitutif a été rédigé. Je ne sais pas s'il y a une lettre ou une email qui va directement de la présidence du GNSO au GAC. Quelle est la solution? Voilà des choses dont nous devons débattre au sein de la GNSO elle-même. Je pense que l'idée des liaisons inversées est intéressante. L'occasion était là, je pense. Vous êtes un de chaque pays, donc vous pourriez peut-être... Il se peut que vous ayez des problèmes avec les ressources, des limitations, ce qui me fait aborder le dernier point abordé par le Royaume-Uni. Il faut qu'il y ait une priorité lorsqu'on vous envoie la liste de tout le travail que nous faisons. Vous devez donner des priorités à chacune des tâches à faire. Pour nous, c'est difficile aussi dans les regroupements de suivre le rythme. Il faut que vous établissiez des priorités et il y a trois étapes différentes. Une étape lorsque la GNSO prépare cet acte constitutif et tient compte de cela. Ensuite, il y a l'espace du rapport préliminaire et le rapport final. Donc, avant de commencer un PDP, il y a un rapport des questions et il y a entre 5 et 6 étapes. Ce que nous pouvons faire là, c'est de vous donner l'information, fournir l'information, et il se peut que l'on puisse faire une consultation formelle ou pas au sein de la GNSO. Il y a donc entre 6 et 7 étapes où chacune de ces questions peut bénéficier des contributions. C'est Malal qui prend la parole. Liban, le Liban a la parole. Merci, c'est le Liban qui prend la parole. Merci à vous tous de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mon commentaire ne sera peut-être pas le plus approprié parce que je viens d'arriver dans ce processus. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur la manière dont fonctionne, au point de vue des délais, tout ce processus. Est-ce qu'il y a des délais établis pour chacune des étapes en général pour pouvoir participer dans ce cadre? Deuxièmement, je crois que dans une tentative, dans un effort d'améliorer la participation de la plupart des regroupements, nous devons commencer dans la phase où le problème est identifié. C'est là que nous devrions pouvoir rédiger quelque chose et l'envoyer à tout le monde. Comment le faire avec les alertes précoces pour que les gens puissent à ce moment-là analyser la question et le GAC et les membres du GAC auront le temps suffisant pour aborder, traiter ce sujet, pour que cela donne des résultats positifs.
Bill, merci le Liban. Monsieur Miller a un commentaire à faire. Milton Mueller prend la parole. Merci Bill. Je suis le représentant de l'Université de Syracuse et je suis conseiller de la GNSO pour le groupe des parties commerciales, des parties non commerciales. D'après ce que l'on a entendu dire de votre part, c'est que vous avez un processus de développement de politique parallèle à celui de la GNSO. Et que finalement, vous entrez en concurrence. Je ne vois pas de solution là-dessus, sauf le fait d'avoir un représentant de la GNSO ici qui vous dise quelles sont les étapes sur lesquelles nous avançons dans notre propre processus de développement de politique, par exemple. Ce que vous avez dit, le délégué du Liban, c'est quelque chose qui arrive déjà. Nous identifions une question ou un problème. On donne l'information personnelle et on développe un groupe de travail. Pour nous, ça n'a aucun sens d'utiliser cela comme une demande pour démarrer un groupe de travail pour n'importe quelle question. Je suis d'accord avec Wolfgang, du fait qu'il est important d'avoir des opinions individuelles. Mais si vous aviez un représentant de la GNSO qui vous dit « Ah bon, on vient de nous informer justement de ce sujet que vous venez de mentionner. » Et il y a déjà un groupe qui travaille là-dessus. Et puis après, on leur dit « Eh bien, le groupe de travail a été créé avec une charte. Ceci va vous libérer de la charge de faire le suivi de toutes ces questions que vous ne pourriez jamais faire. » Alors, il y a une voix forte de la GNSO pour informer le GAC de tout ce qui se passe. Je crois qu'il y aurait une meilleure coordination. Bill, merci. Avant de passer la parole à Manal et de passer au processus suivant, je voudrais donner la possibilité à Heather et à Jonathan de faire des commentaires très brefs. Je crois que nous avons pris note de tous les aspects qu'il faut analyser plus profondément et il nous faut trouver une manière de déterminer si on va traiter ceci entre les réunions ou quand est-ce qu'on va le faire finalement. Merci Bill. C'est Jonathan qui prend la parole. C'est très encourageant de voir le volume de participation dans cette session et le ton de cette session. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, beaucoup de thèmes qui ont surgi. Je crois qu'il faudra avoir recours à la transcription pour pouvoir les analyser. Je crois qu'il y a beaucoup de commentaires constructifs, beaucoup de suggestions dont il faut tenir compte. Je crois que c'est une occasion très positive pour redémarrer ici. Je finis mon observation ici. Merci beaucoup, Manal. Merci, Jonathan. Heather prend la parole. Merci. Je n'ai pas grand-chose à dire à tout ce qui a été déjà dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il y a eu plusieurs propositions que l'on pourrait explorer. Et j'aime l'idée de nous concentrer sur le fait d'avoir un enjeu partagé et aborder ce défi en tant qu'alliés pour chercher des manières d'améliorer le processus pour que tout fonctionne mieux pour tout le monde. J'aime bien cette idée et je crois qu'il faut continuer notre approche de cette manière-là. Manal, merci Heather. Je suggère de traiter cette question entre les réunions et ne pas attendre la prochaine réunion de Durban pour pouvoir atteindre un résultat productif dans la prochaine réunion. Nous allons faire des travaux intercession. Nous passons maintenant au deuxième point de l'autre ordre du jour. Bill, merci beaucoup. Bien entendu, la GNSO peut rester ici pour le reste de la réunion, mais maintenant nous allons commencer à travailler sur les processus concernant les consultations entre le conseil d'administration et le GAC, des consultations concernant les statuts. Je vous remercie énormément de votre intérêt et de votre participation. Pour les membres du BGRI, vous devez vous rappeler sans doute que nous avons parlé du diagramme de flux pour le processus de consultation entre le Conseil et le GAC et nous pensons que nous sommes déjà en train de travailler sur les derniers détails de ce travail. Samantha a une présentation pour partager avec nous. Je crois que pour le processus de consultation, je vais donc demander à Samantha de prendre le micro, de prendre la parole. Pouvons-nous passer à la dernière page de la présentation? Je m'appelle Samantha Eisner. Je suis conseillère du bureau de l'ICANN. C'est difficile à lire, mais nous avons des documents qui ont circulé au BGRI. En quelque sorte, cela nous donne une représentation graphique de tout ce qui a trait au processus de consultation entre le conseil d'administration et le GAC. Et c'est ce que l'on a recommandé de présenter au conseil d'administration pour la prise en considération. Je vais vous montrer des aspects centraux de tout cela. Ce processus doit être initié par le conseil qui doit notifier le GAC en détail. Disons que l'on ne va pas tenir compte de l'avis formel du GAC. Et le Conseil doit fournir les fondements et la documentation pour cette raison. Ceci donne lieu au début du processus de consultation. Puis le GAC a un temps déterminé pour pouvoir expliquer les fondements et évaluer s'il y a des éléments supplémentaires qui n'est pas été prise en compte par le conseil d'administration. De cette manière, on pourra évaluer si on rejette tout le conseil du GAC. Pendant ce temps, l'un des objectifs principaux du BGRI est que la durée maximale de ce processus est de 6 mois. Bien entendu, c'est quelque chose de général, hein? Il faut tenir compte de l'importance des questions en cours, du temps consacré, etc. Mais c'est à peu près le délai accordé. Alors, nous devrons nous rappeler que nous parlons d'un processus de 180 jours. Dans une période de 45 jours, le GAC doit considérer la notification du Conseil. Dans les 60 jours après réception de la notification du Conseil, la présidence du GAC et la présidence du Conseil établissent une conférence suivant les chronogrammes de chacun des deux entités pour pouvoir traiter les consultations concernant les statuts. C'est peut-être non seulement une réunion. Si l'on considère que la question est suffisamment complexe et suffisamment importante, il est possible que le Conseil et le GAC déterminent de mener une série de réunions et établir le calendrier pour ces réunions. Ou même après la consultation initiale, il peut se passer que le GAC et le Conseil ait besoin de plus de consultations avant de clore la question. Lorsque l'on parle d'une consultation, il n'est pas, c'est-à-dire on peut parler d'une ou de plusieurs réunions. La prochaine démarche ou la démarche suivante, c'est que toutes les personnes liées à la réunion sont identifiées entre le et accordées entre le conseil et le GAC. Il faut se mettre d'accord sur un ordre du jour. Toutes les questions que l'on veut discuter pour que tout le monde ait le temps de préparer les documents par écrit avant la consultation, s'il le souhaite, comme vous pouvez voir. Ici, dans la diapo, les deux organes se mettent d'accord sur un calendrier pour pouvoir partager les documentations écrites. Et ces documents doivent être publiés et partagés au moins 2 semaines avant la réunion des consultations concernant les statuts. Puis après, on passe à la consultation des statuts. Il est recommandé de le faire dans les 60 jours calendaires. Une période de 60 jours civils établi par le pour que le GAC et le Conseil puissent établir leur position par rapport au sujet abordé. Après cette consultation, le Conseil détermine les mesures à prendre suivant les résultats obtenus et ceci sera notifié au GAC. Voilà donc une démarche ou une étape où le Conseil informe le GAC si l'on va modifier le cours d'action suivant le Conseil du GAC. En vertu de la consultation et du résultat de la consultation, que l'on ne va pas agir contre l'avis du GAC ou bien informer le GAC que le Conseil va agir suivant ce qu'il considère approprié. Après avoir reçu la notification, le GAC a la possibilité de présenter des commentaires sur la décision du Conseil. À vrai dire, c'est ce que l'on anticipe. Hein? Si les deux parties, c'est ce que l'on prévoit. Si les deux parties pensent qu'il faudrait faire des consultations supplémentaires, cette possibilité peut exister. Le Conseil pourra donc prendre ses décisions finales après avoir traité toutes ces questions dans la période de consultation. Que se passe-t-il quand le Conseil prend une action déterminée qui est contre l'avis du GAC? Le BGRI a recommandé au Conseil de prendre cette action seulement avec les 2/3 de la majorité d'approbation des membres du Conseil. Voilà donc une autre exigence pour que le Conseil puisse entreprendre une action contraire à l'avis du GAC. Ceci est similaire à ce qui se passe avec le PDP de la GNSO lorsque le conseil d'administration cherche à rejeter une politique de la GNSO. Il faut qu'il y ait la supermajorité pour pouvoir agir contrairement à la recommandation ou à la politique. Il va donc être nécessaire de changer les statuts pour ce faire. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser sur le processus. Manal, le Royaume-Uni. Merci. Samantha, tout a été très clair. La seule chose que je voudrais souligner ici, c'est que lorsqu'il y a un problème, la manière dont le GAC va travailler de manière plus efficace, c'est lors de ces réunions. C'est lorsque tout le monde est assis autour de la table, comme ici à Pékin, dans une réunion avec beaucoup de participants. Là, on pourra travailler de manière efficace et on pourra identifier toutes les questions. Alors, si l'on voit les délais maximum 75 jours pour identifier les problèmes à traiter, si le calendrier du GAC n'est pas approprié, il va peut-être y avoir un problème. Je veux tout simplement mentionner cette question pour éviter des problèmes. Samantha, je crois que en ce moment, il serait approprié que les présidents des deux entités, dès qu'ils verront tout le calendrier, ils décident si la période de 6 mois est viable ou pas, s'il y a l'occasion d'avoir des réunions en face à face. pour évaluer si l'on peut ajuster la période et que le GAC puisse avoir l'occasion d'être présent lors de réunions. Le processus est suffisamment flexible pour tenir compte de ce genre de situation. Bill, merci de la question au Royaume-Uni. Merci Samantha de ta réponse. Tel qu'il a été discuté dans la deuxième réunion, voici deux calendriers conceptuels. Je me souviens que nous avons dit que nous allions prendre en considération le fait que vous venez de souligner ici. Ceci, on l'a déjà évalué, les deux parties l'ont déjà évalué, mais nous sentons que ces délais peut faire en quelque sorte que nous marchions sur le plancher très, très chaud. Hein? Il faut avoir la flexibilité pour élargir ces délais. Voilà donc pourquoi, avec des consultations avec le personnel du département juridique, le délai ne devrait pas figurer dans les statuts, mais qu'il devrait être accordé à chaque occasion par le président du GAC et du conseil d'administration. Manal? Ceci nous amène à une autre question qui a déjà été posée par l'un des collègues du GAC. C'est 6 mois. Ça démarque quand, si on est d'accord qu'il y a une période maximale de 6 mois. Quand est-ce que cette période démarre? Avec la réunion formelle ou lorsque le GAC est notifié que le Conseil ne va pas respecter un avis déterminé? Le processus exige une notification formelle du Conseil au GAC. Alors, on ne va pas tenir compte seulement de la réunion du conseil d'administration. Il va y avoir une notification formelle de manière accordée entre les deux parties. Voilà, c'est la journée numéro 1, c'est le démarrage, le jour de la notification. Manal, alors, il y a eu aussi une question formulée par les membres du conseil d'administration concernant ce qui se passe au cas où la mise en œuvre de l'avis du GAC ou si le GAC sentirait que la mise en place de cette action ne correspond pas à l'avis du GAC. Le Conseil pense que que se passe-t-il si l'action n'est pas en ligne avec l'avis du GAC? Christy Spain, pour décider cela, vous devez arriver au consensus que cet avis ne soit pas respecté ou ne soit pas suivi. Puis après, vous pourrez recommencer avec ce processus parce que vous ne pouvez pas nous dire que l'on ne suit pas votre avis si il y a eu le consensus de ne pas suivre votre avis. Manal, Australie, s'il vous plaît. Ceci semble avoir du sens, hein, ce que vous venez de dire. Manal, je devrais peut-être revoir la transcription pour bien comprendre ce qu'il vient de dire. L'Italie et le Liban. Maintenant, l'Italie. Dans une réunion préalable, j'ai défini les possibles étapes pour le conseil d'administration de l'interprétation de l'avis du GAC. Puis après, il faut vérifier si vraiment cela a été compris de la manière à laquelle nous nous attendons. Puis, il y a la mise en œuvre. Après la mise en œuvre, le GAC pourrait dire, eh bien, nous pensons que vous n'avez pas mis en œuvre les actions comme nous voulons ou comme nous aurions voulu. Cela veut dire qu'après l'avis du GAC, il faudrait qu'il y ait une interaction réelle dans le but de nous assurer que tout a été bien interprété, que la signification de l'avis du GAC a été bien interprétée. Des fois, il faut accepter une opinion du conseil disant, eh bien, vous nous avez donné votre conseil pour faire telle ou telle chose et les termes sont vagues et on ne le comprend pas. Alors, il faut avoir des discussions ou des conversations avec le Conseil. L'Italie prend la parole. C'est vrai ce que vous dites. Cette étape se produit avant le démarrage de ce processus formel. Et c'est quelque chose sur laquelle on a discuté et on a essayé d'établir des délais au sein du Conseil. parce que nous n'étions pas satisfaits de notre propre performance, pour ainsi dire. La manière de travailler, c'est que le GAC peut émettre son avis, puis après le conseil d'administration donne une réponse au GAC, et cette réponse inclurait des questions, des demandes de clarification ou voir comment on appliquerait l'avis du GAC. Cela laisserait la porte ouverte au GAC pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et tout cela se passe avant l'acceptation ou le rejet formel du GAC. Dès qu'il y aura le rejet formel, on va commencer ce processus. L'Italie, dans ce cas, il faudrait être le plus court possible. Merci pour l'explication, dit le Liban. Je crois qu'il faut respecter, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait du respect pour la mise en place et puis voir s'il y a eu le consensus du GAC pour ce faire. Deuxièmement, lorsque le Conseil décide de ne pas suivre le Conseil du GAC, j'ai écouté qu'il doit y avoir une majorité des deux tiers. Alors, qui a la possibilité de changer cette majorité des deux tiers à la moitié? S'il y en a qui pensent que le Conseil dit que, bon, ce n'est plus les deux tiers, maintenant c'est la moitié parce que les choses ne fonctionnent pas bien entre le GAC et le Conseil, ce serait possible? Bill, Samantha, je vous demande, s'il vous plaît, d'expliquer quelle est la procédure de changement des statuts. Samantha prend la parole. Il y a un document qui a été fait circuler du BGRI qui peut être envoyé au GAC pour vous aider à réfléchir là-dessus. Les statuts de l'ICANN établissent qu'il y a un processus pour le changement. Alors, le Conseil ne peut pas dire, eh bien, je veux changer ça, et le Conseil le change. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des commentaires publics. Il y a l'exigence d'une période de commentaires publics de 30 jours, au moins, pour changer les statuts. Après cette période de commentaires publics, je crois que une partie du document reçu par le GAC aussi pour dire que l'on va changer les statuts. Et le cas échéant, le GAC recevrait une notification pour initier le changement de l'avis du GAC pour le changement. Mais ce type de changement ne se passe pas en secret. Il va y avoir une période de commentaires publics et le Conseil a l'obligation de prendre en considération les commentaires publics avant de prendre une décision sur toutes sortes de changements dans le processus du statut. Tout cela doit se passer avant que le Conseil déclare un changement du statut banal. L'Iran prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Il y a certaines questions que je veux clarifier. En premier lieu, ce qui a trait au début et à la fin du processus qui doit être clair. Tout processus lié à un délai doit dire exactement quand est-ce que ce délai commence et quand est-ce que ce délai finit. Ça doit être très clair. Point numéro 2. Quand on parle de la majorité des deux tiers, si le critère établi ne peut pas être changé de manière unilatérale, à moins qu'il y ait un processus pour ce faire, cela veut dire que si l'on prend la décision que tout rejet ou tout manque d'acceptation doit être basé sur la majorité des deux tiers, alors là, on parle d'une majorité de deux tiers. On ne peut pas parler de deux tiers dans certains cas, de majorité absolue dans d'autres cas ou de majorité simple dans d'autres cas, c'est-à-dire la moitié plus un. Il faut être très prudent pour voir comment on travaille. Les deux tiers de la majorité signifient les deux tiers de tout le monde ou des membres présents. Cela, il faut tenir compte de cela aussi parce qu'il peut y avoir des membres qui ne soient pas présents. Et pour finir, avant que le Conseil prenne une décision, s'il existe le besoin d'une clarification, cette clarification doit être faite avant la prise de la décision. Il ne faut pas prendre une décision sur la base d'une ambiguïté. S'il existe le besoin de donner des précisions ou de faire une clarification, eh bien, cette clarification doit être faite avant la prise de décision sur l'acceptation ou non. Merci. Manal, Merci, Liran, pour donner une précision sur le fait que l'on ne parle pas d'un avis ambigu, mais d'un avis qui puisse avoir plus d'une manière d'être mise en place. Alors, le GAC peut ne pas être satisfait avec une manière de mise en place. En ce moment, je ne peux pas... les exemples ne me viennent pas à l'esprit, mais nous avons pris note de ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a plus de questions, il faudrait conclure le traitement de cette question. Je crois que la question de la supermajorité et de ce qui est nécessaire pour changer les statuts et tout ce qui a trait aux modifications des statuts, il faudra remettre cela plus tard pour voir comment ça se passe au niveau du programme des nouveaux GTLD et comment ça se passe avec les changements dans d'autres parties des statuts. Je crois qu'il y a eu aussi la suggestion pour que ce soit incorporé dans le manuel du Conseil. Bill, Steve Crocker, le président du Conseil, n'a pas pu être présent. Il a été appelé pour assister dans une autre réunion. On a eu de longues discussions là-dessus et s'il avait été présent, il aurait pu dire qu'il est vraiment engagé avec ses idées pour les inclure dans les procédures opérationnelles du Conseil immédiatement avant les changements des statuts, pour pouvoir agir en conséquence et de bonne foi jusqu'au moment où le changement des statuts se produise. Les points signalés ici sont tous très intéressants. Nous en avons pris note. Et je crois que la rédaction de la modification des statuts inclura la mécanique de tous ces points de manière très détaillée et conformément au texte juridique approprié. Et pour ce qui est de l'esprit que vous avez signalé, nous en allons tenir compte et toutes ces questions vont être considérées par notre travail. Merci beaucoup des commentaires et des interventions réalisées. Manal, merci beaucoup de cette réunion si productive. Je crois que avec cela, nous pouvons conclure la recommandation numéro 11. Et maintenant, nous pouvons donc passer au diagramme de flux qui sera publié en ligne pour inclure la participation précoce entre les sessions. Heather, je ne sais pas si tu veux faire des commentaires. À 2 heures après le déjeuner, on va se réunir dans cette même salle.
Non, non. Nous pouvons aller à comer jusqu'à la 1 parce que était occupée la salle. Récemment, j'ai avisé Sabrina. Le masso total. O sea, que vamos a comer los pedos.
Supermajority, je lo tengo en la memoria. No, no es el logigram. No, no, es una es otra cosa. Ahora después, cuando tenga la computadora, me fijo.
Okay.
Así que hasta la 1 no se puede.
Hasta la 1 no se puede porque está ocupada la sala que hay una reunión. Ya le avisé a Sabrina que me voy a descansar y vuelvo 4:45.
Y sí, viste. No, yo ni aviso. Yo me voy.
No, bueno, pero...
No, está bien, porque después te cagan a pedos.
Porque me cagan a pedos, no quiero que me caguen a pedos.
No
quieres
que... Sí.
O sea, porque, pedo, sí. Porque además no es que me voy de joda, me voy a dar una cestita de calzapolis.
Sí.
Viste, que no me rompan
sí.
La pelota.
Yo pregunto, me van a decir, No, porque dijimos que se tenían que quedar. Entonces más vale no preguntar. Y si dicen algo,
no, yo no pregunté,
escúchame,
yo dije,
yo me
no, le
voy
dije ayer,
a traducir.
Le dije, escúchame, el médico, no, yo le dije ayer, el médico me dijo que...